Je l'ai vécu par deux moments qui sont très profondément marqués dans ma mémoire. D'abord, mon père n'achetait pas de journal communiste pendant presque 20 ans. Et un jour, en 68, il a amené le quotidien de l'Union des écrivains, Literati Novini, les nouvelles littéraires, qui était la tribune de critique du comportement des élites politiques dans le pays. Alors, c'était un événement parce que dans notre maison, il n'y avait pas de journal communiste pendant toutes ces années. Et il savait aussi qu'en janvier 68, il y avait une session des écrivains. Et je me souviens comment, à la radio, j'ai écouté avec lui des conférences et des débats qui étaient quelque chose d'absolument inouï à l'époque. C'était une liberté de parole, et évidemment très critique par rapport au pouvoir politique. Donc c'était comme ça que j'ai vécu en janvier 68 le début du printemps de Prague.
Quel était le climat à l'époque du printemps de Prague en Tchécoslovaquie? Est-ce que la libéralisation était perceptible dans la population?
Ça dépendait des gens. Ici, à Ostrava, c'est une ville sidérurgique. Les techniciens s'intéressaient peu à ces choses politiques. Par contre, je vous dis, les écrivains, par exemple, essayez d'imaginer cet hebdomadaire Literati Novini tirait à 250 000 à ce moment-là dans une population de 10 millions d'habitants. C'était comme si, à Paris, on a un tirage d'un hebdomadaire littéraire à 1,5 million d'exemplaires. C'était incroyable. Mais c'était un mouvement d'intellectuels, c'est vrai. Et surtout, ça se passait à Prague, évidemment.
La figure de Dubček était appréciée?
C'était un tout autre style que les bureaucrates bolcheviques qui nous lâchaient des paroles que moi j'appelais des préfabriquées parce qu'on entendait toujours la même chose. Mais mon père disait toujours, quand on commençait à chanter les louanges de Dubček, ça signifie le petit chêne. Hein. Dub, c'est le chêne, le petit chêne, c'est Dubček. Mon père disait, ah, ne vous réjouissez pas. Un petit chêne, même la chèvre peut le manger, hein. Ça va disparaître, vous verrez. Moi, personnellement, j'avais 27 ans, j'étais persuadé que ce mouvement était un prélude à un changement plus profond au bout duquel il n'y aurait plus de communisme. Mais on savait que c'était difficilement pensable sans accord de l'Union soviétique. Donc on était tiraillé entre l'espérance et le pessimisme. Voilà.
Et vous avez senti monter la répression?
Non, à ce moment-là, il y avait vraiment une liberté de parole, d'expression. Tout s'est détaché un peu. Mais je me souviens d'un événement qui m'a fait basculer dans le pessimisme. C'était à ce moment-là, Bertrand Russell, le philosophe britannique, a convoqué un tribunal d'honneur et ce tribunal a demandé aux Soviétiques officiellement de calmer la situation en Europe par une déclaration de non-intervention dans la République tchécoslovaque. Or, les Russes n'ont pas réagi. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, s'ils pouvaient réagir et dire non, nous n'intervenons pas, ils l'auraient fait pour leur pub. Ils n'ont pas fait, ils vont intervenir. C'était au mois de mai. Vous voyez, c'était quelques 3 mois avant l'intervention. À partir de ce moment-là, moi, j'étais persuadé que c'était du jeu sur le volcan qui allait se terminer par une intervention.
Quels événements ont poussé les Russes à intervenir en Tchécoslovaquie?
C'était surtout la liberté de presse. Et d'ailleurs, les rencontres entre Brejnev et compagnie et Dubček et compagnie tournaient toujours autour de cette question. Ils leur reprochaient que même le journal du Parti communiste ne correspondait plus à l'image classique du communisme et de sa presse. Or, les communistes tchèques et slovaques, à l'époque, ils auraient bien voulu interdire. Et ils essayaient de calmer les esprits. Mais enfin, une fois lâchés du lest, les intellectuels et ceux qui sympathisaient avec eux ne se laissaient plus brimer. C'était bouleversant et en même temps, c'était un peu la liberté de fou, quoi.
Qu'est-ce qui a précipité l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 68?
S'ils voulaient conserver leur empire, ils devaient intervenir. De leur point de vue, il n'y avait pas d'autre solution parce que si ils laissaient faire la Tchécoslovaquie, les Polonais et les Hongrois surtout étaient sur leur garde et attendaient le résultat, hein. Si ça continuait chez nous sans intervention soviétique, la Pologne était la seconde et la Hongrie la troisième. À l'époque, ils croyaient que la répression était le moyen approprié pour maintenir l'empire tel qu'il était.
C'était une répression sanglante?
Ça aurait pu se passer sans violence si la population obéissait à l'ordre du Parti communiste tchécoslovaque, c'est-à-dire de ne pas bouger. Les chefs du Parti communiste, après l'invasion de la nuit du 20 au 21 août, on fait une déclaration comme quoi il fallait pas réagir, pas sortir, se garder dans le calme et attendre les négociations. Or, la population n'a pas suivi ces indications, il y avait des affrontements. On est aujourd'hui et hier, on est ici dans le pays, dans la rétrospective des événements, et moi-même, je suis étonné de voir combien d'heures il y avait et combien de morts il y avait, parce qu'à l'époque, on n'en a pas parlé, évidemment. Actuellement, les témoins sont encore vivants. J'ai entendu un chiffre de 157. Donc, ça m'a bouleversé, parce que moi, je croyais qu'il y en avait peut-être une dizaine. Mais visiblement, même dans les petites villes, les gens résistaient et souvent il y avait des affrontements qui ont donné des blessés et des morts.
Comment s'est déroulée la reprise en main ensuite ?
La reprise s'appelait normalisation. Les communistes prétendaient que le printemps de Prague était un événement tout à fait anormal dans le sens idéologique et aussi dans le sens social du mot. Et alors, mise en part, signifie la normalisation. Elle a eu lieu entre 70 et 72. Elle avait la forme d'entretien avec les personnes suspectes. On leur posait une seule question. Qu'est-ce que vous pensez et disiez de l'aide fraternelle des armées du pacte de Varsovie pendant le mois d'août? Il fallait dire, il fallait que les frères nous aident, sauver le socialisme, etc. Qui ne l'a pas signé, affirmé, était évancé. Donc il y avait des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur poste. Certains sont partis en exil tant que c'était possible. Certains sont restés, on appelle ça l'exil en terme. Mais il y avait un échange de cadres, surtout dans la culture et dans la politique, complet. Donc ça n'a pas été des emprisonnements, sauf des gens qui se sont manifestés de manière plus percutante, mais c'était surtout les purges dans l'appareil d'État, dans la police, dans la justice, dans l'enseignement, dans la culture, dans les associations d'écrivains, peintres, etc. Donc une purge totale, après laquelle, comme disait quelqu'un, soit on est cynique et on signe, et on est salaud, soit on n'est pas salaud et on est dans la rue. Parce qu'il ne faut pas oublier, à l'époque toujours, il y avait un seul employeur dans le pays. Tout était étatisé.
Quel rôle l'Église a-t-elle joué dans le printemps de Prague ?
L'Église était un peu dépassée par les événements. Je faisais même partie d'une petite délégation de cette ville ici qui est allée voir le seul évêque qui existait à l'époque à Prague. C'était un administrateur apostolique, ce n'était pas un évêque diocésain résidentiel. Futur cardinal Tomaszek, mais à l'époque administrateur, et nous sommes allés le voir pour voir qu'est-ce que l'Église pouvait faire, et nous les laïcs avec. Or, visiblement, il était incapable de nous donner une réponse concrète. Il nous a amené juste dans la chapelle pour prier avec lui pour le bon déroulement des événements, mais l'Église n'a pas bougé. Par exemple, elle aurait pu, il y avait encore des évêques de la période d'avant le coup de Prague de 48. On aurait pu rapidement les mettre en fonction ou essayer de le faire. Les instances d'État étaient plutôt favorables à cela, mais l'Église, on dit chez nous, les moulins de bon Dieu tournent lentement mais sûrement. Bon, ils ont surtout tourné lentement à ce moment-là. Mon impression à l'époque, c'était qu'ils étaient absolument incapables, ces hommes qui étaient à la tête, d'ailleurs il y en avait très peu, ils étaient incapables de saisir le moment. Ça a été un peu triste parce que c'était juste une éclaircie dans le nuage et on l'a raté à mon avis.
Qu'est-ce qui, selon vous, aurait permis que le printemps de Prague réussisse ?
C'était impossible, c'était la quadrature du cercle. Il fallait que ça commence en Union soviétique. Avant que ça bougeait en Union soviétique, les petits pays comme la Tchécoslovaquie avec les 15 millions d'habitants, quand on pense que l'Union soviétique en avait 10 fois plus, que la police et l'armée étaient aux mains des conseillers et des spécialistes soviétiques, il n'y avait aucun moyen pour que le printemps de Prague réussisse. À mon avis, l'intervention soviétique était inévitable et on ne pouvait pas s'y opposer. À moins que, parce qu'on pensait à un moment que les Polonais qui étaient très très favorables, et il y avait des liens, on sait aujourd'hui que Havel et son groupe, c'est-à-dire le futur président dans les années 90, avait des contacts avec Solidarność, avec l'opposition polonaise, et les Hongrois aussi. Vous savez, 56, c'était les Hongrois. Dans les années 60, de nouveau les Polonais, mais 64. Nous, 68, c'était au coup par coup. Ça n'avait aucune chance de réussir.
Quel regard les Tchécoslovaques portent sur le printemps de Prague 40 ans après ?
Ceux qui sont les plus actifs aujourd'hui, qui ont les 30 à 40 ans, disons les 40 ans les plus âgés, ils avaient 8 ans à l'époque. Donc, le printemps de Prague, pour eux, c'est la guerre de 100 ans. Pour ceux qui sont comme moi, qui avaient 27 ans ou plus, une sorte de redécouverte de ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'on savait, chacun de nous, ce qui s'est passé là où on était. Mais pour savoir qu'est-ce qui se passait à côté ou ailleurs, vraiment loin, on ne le savait pas. Donc, petit à petit, on s'est rendu compte que l'atmosphère dans la population était beaucoup plus en harmonie avec les événements qu'on ne pensait. On avait l'impression que tout se passait à Prague, et ici et là, il y avait un petit truc. Non, c'est faux. L'atmosphère était favorable dans le pays tout entier, mais ceci dit, bon, vous savez, quand on vieillit, on se souvient volontiers des choses qui étaient belles. Les idéaux de la jeunesse ne meurent jamais. L'espérance, c'est la dernière qui meurt.